Je présente aujourd'hui le budget 2024-2025 du gouvernement du Québec, un budget qui priorise la santé et l'éducation. Un budget exigeant, Madame la Présidente, qui s'inscrit dans un contexte économique à la fois tendu et source de nombreux défis. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de donner l'heure juste aux Québécois. Je vous présente ainsi le résultat d'un exercice d'équilibre entre les grandes ambitions socio-économiques du Québec et le maintien d'un cadre financier responsable.
Avant peut-être qu'on aille un peu dans les détails de ça, je sais qu'on parle beaucoup de la dette, puis quand on voit les chiffres qui s'élèvent à plusieurs milliards, des fois on a l'impression que c'est quelque chose qui est comme impossible de revenir, parce qu'on nous parle aussi de revenir à l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement les notions de dette et notions d'équilibre? Et est-ce que la dette actuelle du Québec est raisonnable? Comment est-ce que ça se calcule tout ça?
Mais oui, c'est vrai que c'est des chiffres faramineux. Souvent, on se perd un peu là-dedans. De façon, je dirais, simpliste, là, si on veut faire un résumé de ça, la dette, ben, c'est comme nos dettes personnelles, hein. On a toutes des dettes personnelles, des hypothèques, des prêts. Bon, ben, le Québec, le Canada aussi, c'est sa dette reliée à ses emprunts. On parle d'une dette de 240 milliards au Québec. Et on parle d'une dette de 1,1 milliard de milliards au Canada, donc à peu près 5 fois plus grande au Québec, au Canada qu'au Québec. Si on regarde la population, par exemple, si on y va sur une base de per capita, on a à peu près le même niveau de dette à Québec et à Ottawa par habitant. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des accélérations des deux dettes à Québec et à Ottawa dans les dernières années, notamment en raison de la pandémie. Par exemple, à Ottawa, ça a été phénoménal. Là, on a parti en 2019 d'une dette de 600 milliards et on l'a augmenté de 500 milliards supplémentaires reliés à la COVID. Donc, ce qui explique là, le bond incroyable de 600 milliards à 1,1 milliard de milliards à Ottawa. Et nous, bon, on est à 240 quelques milliards. On va l'augmenter de 11 milliards pour le budget 2024-25. Donc, c'est un budget qui est terne. Hein. Je veux dire, c'est comme dole d'en parler, même c'est triste d'en parler. Il n'y a rien de très, je dirais, gagnant. Il n'y a rien de majeur dans ce budget-là. C'est comme si on se préparait une année au neutre pour peut-être faire des bonnes annonces dans les prochaines années avant les élections, avant 2026.
Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent qu'ils veulent revenir à l'équilibre? Parce que c'est loin 2030, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le terme de revenir à l'équilibre?
Bien, ce que ça veut dire que c'est d'arriver à produire des futurs budgets qui vont être sans déficit, qui vont être équilibrés au niveau des revenus de dépenses. Par exemple, si on a un budget de 125 milliards au Québec, ça vire autour de ça, bien, on doit avoir 125 milliards de dépenses et 125 milliards de revenus. Présentement, il nous manque 11 milliards de revenus pour équilibrer les dépenses, ce qui fait qu'on a une dette, on a un déficit de 11 milliards et on va augmenter la dette par le fait même de 11 milliards supplémentaires. Si on veut revenir à l'équilibre, ça veut dire aller chercher des revenus supplémentaires. Ça veut dire viser peut-être, attendre la diminution des taux d'intérêt, parce que juste le paiement des intérêts sur la dette du Québec, c'est au-delà de 10 milliards par année. Donc, si les taux d'intérêt diminuent, le 10 milliards de remboursement d'intérêt va diminuer. C'est aussi attendre une reprise économique. Si dans les dernières années, l'économie a été vraiment très, très positive. Ça s'est bien comporté. Puis je me souviens où il y a eu des budgets du gouvernement de la CAQ avec des bonnes surprises. L'économie allait tellement bien qu'il y avait beaucoup plus de revenus, beaucoup plus d'économies, donc plus de taxes de perçus, plus d'impôts. Les gens travaillaient des plus hauts salaires. Donc ça fait en sorte que c'est des facteurs positifs dans les dernières années que le gouvernement a connu. Mais là, on est dans une période plus négative. Les taux d'intérêt sont élevés, donc ça coûte cher pour nos emprunts. L'économie est au ralenti. On ne parle pas de récession encore, mais on est à 0,3% seulement. 0,3%, c'est pratiquement au point neutre. Donc, on n'est pas loin d'une récession, selon moi. Elle est amorcée. Quand on parle aux commerçants, aux industries, aux gens sur le terrain, on sent le ralentissement. Donc, tout ça, ça fait en sorte que les revenus sont moins au rendez-vous. Puis, le gouvernement doit composé avec une situation qui fait en sorte que finalement un budget déficitaire.
Parce qu'on voit que, bon, dans le site internet justement du ministère des Finances, ils mettent quand même en gros qu'ils ont des priorités. Puis là, justement, on voit que c'est marqué santé et éducation dans les priorités. Il y a quand même un 4,9 milliards pour financer les services de santé. Est-ce que c'est des choses qu'on va pouvoir ressentir, nous, en région? Parce qu'on connaît la problématique aussi qu'on a en santé. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir aussi impacter les régions comme la Gaspésie?
Très bonne question. C'est la question que je me pose aussi. Tu sais, quand j'écoutais le budget hier, puis j'entendais que le gouvernement voulait mettre la priorité cette fois-ci non plus sur la santé, mais sur l'éducation, ben, je me dis, peut-être que c'est rendu un peu gênant pour les gouvernements, pas juste pour la CAQ, pour les gouvernements, de dire qu'on fait de la santé une priorité, parce qu'il y a une chose qu'il faut donner au gouvernement de la CAQ, ils ont investi beaucoup d'argent supplémentaire dans le réseau de la santé depuis leur arrivée au pouvoir. Mais malgré ça, on peut se poser la question, est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Et de là, ta question, est-ce que nous, en région, puis même à la grandeur du Québec, est-ce qu'on va pouvoir espérer des meilleurs services, un accès plus facile à un médecin de famille, des délais pour les interventions chirurgicales plus courts, etc., etc.? On peut se poser la question, mais le fait que le gouvernement ne parle moins de la santé que de l'éducation, je pense que c'est peut-être parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous à date et ne seront peut-être pas au rendez-vous dans les prochaines années. Donc là, on change de cheval de bataille. On dit aux Québécois et Québécoises, dorénavant, la priorité, c'est l'éducation. Fait que là, on verra les résultats au niveau de l'éducation, mais ces résultats-là, ça ne se fait pas sentir en termes de mois. C'est sur un calendrier beaucoup plus long. Quand on parle de modifier un système de santé, modifier un système d'éducation, ce sont des monstres là, à virer de bord, ces deux gros ministères-là. Puis on peut parler d'années avant peut-être d'avoir des résultats. Puis ça nous amène avec l'autre élément que le gouvernement a commencé à mettre sur la table de façon importante dans les dernières semaines, c'est toute la question de l'optimisation des services de l'État. Donc, c'est comme si le gouvernement est arrivé à la conclusion qu'il a mis beaucoup d'argent dans la machine gouvernementale, autant au niveau de la santé, de l'éducation que dans d'autres ministères. Et là, ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de bien gérer cet argent-là pour avoir des résultats, de l'optimisation. Donc là, ça va être le nouveau cheval de bataille du gouvernement du Québec, j'ai l'impression. L'optimisation, donc l'amélioration des services, autant santé, éducation que dans l'ensemble des ministères. Le ministre Girard, le ministre des Finances en a parlé beaucoup. Le premier ministre en parle. Et je pense que là, ça va être le réflexe naturel du gouvernement de dire, écoutez, on a mis de l'argent, maintenant, il faut que la machine, les fonctionnaires, les employés de l'État démontrent qu'ils sont performants, puis qu'on optimise les services à la population. Moi, c'est la tangente que je vois se dessiner là, pour les prochaines années.
Parce qu'en écoutant justement en vidéo le budget, je voyais comment ils étaient fiers de présenter ce budget-là. Est-ce que toi, après être passé un petit peu au travers, tu y vois comme des lacunes, des bugs un petit peu, des choses qui ont peut-être un peu moins de sens?
Ben, c'est un budget qui est terne. Je ne pense pas que le gouvernement est vraiment fier. Tu peux avoir l'impression d'être fier, assez donner l'impression que tu es fier, mais puis ça enlève rien au mérite là, du ministre Girard, le ministre des Finances, qui, à mon avis, est quelqu'un d'extrêmement compétent et d'engagé. Sauf que le ministre Girard, il fait partie d'un gouvernement. Il y a tous les autres collègues ministres qui placent leurs commandes. Il y a aussi les orientations politiques du parti, de la CAQ, du gouvernement. Il ne faut pas se le cacher, là. Un budget, là, c'est toujours approuvé par le bureau du premier ministre. Donc, oui, le ministre Girard semblait relativement heureux de déposer ce budget-là, mais je suis convaincu qu'il y en a eu des meilleurs. Et il doit espérer en avoir de meilleurs encore avant la fin de sa carrière politique. Donc, ce n'est pas un budget là, intéressant, je trouve. Il est même, je dirais, il est même plate à commenter parce qu'il n'y a pas de wow dedans, il n'y a pas de nouvelles réformes, il n'y a pas de vision dans ce budget-là. On nous dit on change le mot santé par le mot éducation, deux dossiers prioritaires pour les Québécois et Québécoises. On ne se trompe pas en faisant ça. Mais est-ce que ça va créer un engouement? Je ne suis pas certain. Je le sens pas, là, ni dans les médias, ni dans la population, là, les commentaires que j'entends. C'est un budget qui est très terne. T'sais, normalement, quand on commentait les budgets les années antérieures, on parlait des impacts sur les régions, des impacts sur les dossiers des transports. Là, on trouve très peu d'informations. Il y a même des diminutions d'investissement au niveau des budgets d'immobilisation. Donc, ça, c'est inquiétant. Beaucoup moins de grands chantiers. Pour les régions, très peu de choses. Sinon, On parle d'une augmentation du budget relié aux travaux sylvicoles, mais les travaux sylvicoles, malheureusement, c'est de moins en moins une grosse partie de l'économie des régions et surtout de la Gaspésie. Donc, pas beaucoup de nouvelles qui peuvent laisser entrevoir là, une amélioration de l'économie ou de la qualité de vie dans les régions puis en Gaspésie. On cherche ces menus détails-là. On n'a pas encore toute l'information. On va pouvoir l'éplucher. Peut-être que dans notre prochaine chronique, on aura eu le temps de trouver des détails. Par exemple, un des questionnements que je me pose, est-ce que le dossier de la réhabilitation du chemin de fer, un projet où on avait investi tout près de 600 milliards supplémentaires jusqu'en 2026, est-ce que les budgets sont maintenus? Est-ce qu'on a extensionné le délai de réalisation? De plus en plus, moi, j'entends parler d'un délai qui pourrait être au-delà de 2026 pour réhabiliter le chemin de fer jusqu'à Gaspé pour différentes raisons. Donc, il va falloir vérifier un peu tout ça. Je te dirais que c'est, en résumé, c'est pas un budget qui va passer à l'histoire. Très peu d'éléments concrets, pas beaucoup de vision de la part du gouvernement qui transpire dans ce budget-là en termes d'innovation, en termes d'amélioration de quelconque service ou programme gouvernementaux. Puis, je terminerai en disant, ce qui m'inquiète, c'est que en novembre dernier, il y a eu une mise à jour économique budgétaire. Donc, la mise à jour économique, là, c'est en novembre 2023 que ça s'est fait. Puis là, le gouvernement du Québec affichait ses couleurs pour la prochaine année. Puis là, on nous parlait d'un déficit possible de 3,5 milliards. 3,5 milliards de déficit pour l'année 24-25. Et là, on nous arrive à peine 4 mois plus tard avec un budget déficitaire de 11 milliards. Oui, dans le 11 milliards, il y a une partie de remboursement du Fonds des générations. Donc, on parle d'un déficit là, réel plus autour de 8 milliards. Mais entre 3,5 milliards en novembre et 8 milliards en mars, il y a seulement 4 mois, comment a-t-on pu arriver à un tel résultat? Moi, c'est ce qui m'inquiète. Parce que est-ce que le gouvernement a vraiment les bons outils pour contrôler la situation financière du Québec? On peut se poser la question parce que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on n'aurait pas pu venir voir venir entre novembre et 23 et mars 2024, pas grand-chose à mon avis. On savait qu'on était en négociation avec la fonction publique, que ça allait coûter quelques milliards de plus par année. L'augmentation des taux d'intérêt était déjà amorcée. Le ralentissement économique, on le sentait venir. L'inflation, on la sentait également. Donc, je me questionne. Puis ça, je ne sais pas si les chroniqueurs spécialisés en finances publiques vont explorer ça dans les prochaines semaines. Ça va être à suivre. Mais moi, ça m'inquiète de voir qu'une prévision, là, une prévision de pertes financières soit aussi dépassée dans une période aussi courte que 4 mois. C'est surprenant. Puis je ne doute pas, une fois de plus, de la compétence du ministre des Finances, M. Girard, là. C'est juste que probablement qu'il y a un problème au niveau beaucoup plus, je dirais, plus important, qui est au-delà probablement de la capacité du ministre des Finances. C'est probablement des décisions du gouvernement qui ont fait en sorte qu'on se remorque dans cette situation-là. Des fois, des décisions politiques, parce que faut pas oublier qu'un budget gouvernemental, c'est aussi un outil politique.
Oui, hein, c'est intéressant de voir un peu, quand tu disais tout à l'heure, il a des collègues qui passent aussi leurs commandes un peu. Est-ce que c'est la façon dont on fabrique ou on fait ce budget-là, est-ce qu'il reflète la réalité du terrain au niveau de la population? Parce que j'imagine que si on a un représentant dans notre territoire qui fait partie du même parti politique, est-ce que c'est aidant? Bref, quand tu parles de faire passer des commandes, comment est-ce que ça marche exactement, ça?
Bien, généralement, là, dans les mois qui suivent le dépôt du budget, parce que c'est un exercice quand même fastidieux de réaliser le budget du Québec. Donc, ça dure pendant plusieurs mois. Je dirais, il y a une période de 3 mois qui est très, très intense, là. Donc, à partir du mois de décembre, généralement, là, on commence à travailler de façon plus active, on le sent. Puis quand tu es à la charge d'un ministère, quand tu es ministre, bien là, on te demande c'est quoi tes priorités pour le prochain budget. Donc, quelques mois avant le dépôt, chaque ministre dépose ses priorités. Puis là, il y a une évaluation de l'ensemble des demandes de tous les cabinets ministériels qui est fait par le ministre des Finances, mais aussi par le bureau du premier ministre. Puis là, il y a des choix qui sont faits. On écarte certaines demandes, on ajoute même d'autres nouvelles. Puis en fonction, tu sais, quand je dis c'est politique, en fonction de différents paramètres, dont entre autres, je dirais, les attentes de la population, parce que Un budget, c'est un outil politique, donc il faut que ça plaît à l'électorat. Donc, si les gens, par exemple, veulent des investissements dans l'éducation, ben possiblement, si le message est adressé fortement au gouvernement, possiblement qu'il va y avoir des budgets supplémentaires attribués à l'éducation. Si on sent qu'au niveau des transports, ben c'est assez tranquille, il n'y a pas de gros projets, il n'y a pas de priorité, ça brasse pas trop sur le terrain, on va peut-être diminuer un peu le budget du transport pour en mettre plus dans d'autres ministères où il y a plus de demandes. Donc, c'est un équilibre entre, je dirais, les attentes de la population, le volet plus politique, versus, bien sûr, les différents rapports, toute l'expertise qui existe dans l'ensemble des ministères. Par exemple, au niveau routier, ben, le ministère des Transports a des priorités qui sont incontournables. Si un pont, une infrastructure est en piètre état, puis on doit le remplacer, ben, on n'a pas le choix, c'est un incontournable. Donc, ça devient une priorité dans le budget. Mais il y a des ministères qui sont moins, qui créent des pressions moins fortes de façon directe sur le gouvernement. Je pense, par exemple, au ministère de l'Environnement, où il y a des objectifs à atteindre, mais tu as moins d'infrastructures, tu as moins de services à donner à la population. Par contre, tu as des cibles. On veut diminuer les gaz à effet de serre, on veut avoir un environnement plus sain, mais ça, c'est moins quantifiable directement. Donc, souvent, c'est ces ministères-là qui vont se faire tasser un peu pour donner la place aux ministères qui sont vraiment dans une vocation qui est plus palpable sur le terrain. Santé, éducation, l'économie, etc. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe, hein? Il y a beaucoup d'influence aussi. Il y a des ministres qui ont plus d'affinité avec peut-être le cabinet du PM, avec le ministre des Finances, qui vont peut-être pouvoir mieux négocier leur enveloppe budgétaire. Donc, c'est des humains en bout de ligne, hein, ces ministres-là. Donc, c'est un ensemble de phénomènes qui font en sorte que finalement, on arrive à déposer un budget, généralement, là, en mars de chaque année, puis sur un processus, bon, qui s'échelonne sur plusieurs mois. Puis souvent, j'ai vu des dossiers, moi, dans des budgets s'ajouter, là, 24 heures avant l'annonce du budget, un dossier prioritaire s'ajoutait parce que il était jugé important, soit au plan politique, ou soit parce que personne ne l'avait vu, puis un élément nouveau fait en sorte que ce dossier-là ressort. Donc, puis encore là, ce sont des prévisions budgétaires. Donc, le mot prévision est très important. Ce qu'on retrouve dans le budget aujourd'hui ne veut pas dire que c'est ce qu'on va réaliser dans la prochaine année. Ce sont des prévisions budgétaires. Il va arriver des imprévus. Il peut y avoir, une pandémie encore. Il peut y avoir des événements, des cataclysmes naturels qui font en sorte qu'on va devoir revoir nos priorités. Donc, c'est un document qui est intéressant, mais il ne faut pas prendre pour acquis que c'est une fin en soi. C'est plutôt un document qui peut être évolutif puis adapté en cours de l'année aussi.
Bon, pour terminer, j'aurais une question concernant, là, comme tu dis, c'est un budget qui est terne et peut-être même plate à commenter, mais qu'est-ce que toi, avec ton expérience, qu'est-ce que tu aurais vu là-dedans pour que ça fasse un waouh? Qu'est-ce que tu aurais imaginé là-dedans que ça puisse faire la différence?
Ben, moi, j'aurais aimé voir un budget qui laisse transpirer une vision de l'appareil du gouvernement à l'égard de différents éléments, comme par exemple le transport, hein. C'est sûr que ma préoccupation, moi, mon dada, c'est plus le développement régional, tout le monde le sait. Donc, j'aurais aimé voir, par exemple, des orientations budgétaires qui vont faire en sorte que toute la question du transport en région va être va devenir à quelque part une priorité gouvernementale, mais on le sent pas, on le voit pas là-dedans. Même chose, par exemple, au niveau du logement. Le logement, je comprends pas que le gouvernement, avec tous les messages unanimes qui viennent de partout, des municipalités, même le fédéral investit dans le logement, puis Québec n'a pas ajouté de nouveaux budgets. Il y a eu des budgets l'an passé qui ont été annoncés, mais ça a été mal reçu. Les programmes ne collent pas avec la réalité sur le terrain. Les municipalités sont insatisfaites. Donc, comment expliquer qu'en 2024, avec toute la place que prend la crise du logement, on n'arrive pas avec des mesures concrètes, des mesures majeures pour le logement, qui est un besoin essentiel? Je ne peux pas me l'expliquer, celle-là. C'est difficile à comprendre. Si on se transporte plus en milieu urbain, toute la question du transport collectif. C'est une priorité. Nous, on a des problèmes de transport interrégional, Mais à Montréal, à Québec, ils ont des problèmes sérieux au niveau du transport urbain. Donc, on ne voit pas dans le budget à date là, d'orientation majeure à ce niveau-là. Est-ce qu'on veut faire stagner ces dossiers-là pendant un certain temps pour peut-être en faire des priorités à la veille des élections? Ça aussi, il ne faut pas se le cacher. C'est peut-être une stratégie parce qu'on est juste en 24-25. Les élections sont en 26. Tu sais, la mémoire collective des gens est très courte. Hein? On dit que généralement, c'est à peine 6 mois. Donc, même si le budget 24-25 est terne, il n'y a pas de wow dedans. Peut-être qu'on se fait des petits coussins, on se fait des réserves pour arriver avec un budget mieux garni l'année préélectorale. Ça aussi, il ne faut pas se le cacher. Ça fait partie de la joute politique aussi.
Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.